Bienvenue au Polysécur épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent.
Salut!
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Toi?
Très bien aussi.
Cool.
Oui, aujourd'hui, tu voulais parler d'un sujet parce que c'est vraiment dans l'actualité, LastPass, qui a connu pour sa deuxième reprise un avari de sécurité qui a amené à la compromission d'informations. Comme d'habitude, la toile s'est énervée. Comme d'habitude, tout le monde a dit que c'était tout et n'importe quoi sans même avoir, j'ai l'impression, même lu la nouvelle. Ils ont juste dit, ils ont juste vu le titre, puis ils ont tiré des conclusions, puis ils ont dit n'importe quoi. Donc de là, toi, de toute façon, tu es un client à LastPass aussi. Fait que toi, tu as eu les communications. Moi, j'ai pas eu les communications, fait que j'ai aucune idée. Puis j'ai très peu suivi ça. Fait que je suis pas nécessairement aussi bien informé que toi. Mais je pense qu'on aura énormément de plaisir à discuter ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'angles intéressants à aborder, justement. Dans le calme et la sérénité.
Oui, effectivement. Premier élément, c'est un petit courriel que j'ai reçu de LastPass. Petit courriel éloquent, mais très succinct, qui dit tout simplement qu'un LastPass vise à m'informer que un accès non autorisé a eu lieu et que certaines informations ont pu être consultées, voire même exfiltré de l'infrastructure de la société. Alors, on va faire deux liens, un sur un blog de suivi de cet événement-là, puis un autre lien vers justement les nouvelles de façon plus générique de la compagnie. Alors, il est à tort, je me suis pas méfié. Je fais du double de l'authentification en deux facteurs avec la majorité de mes fournisseurs sur lesquels il peut y avoir des transactions financières. Je m'en fais pas trop. Le lendemain matin, je me lève, je fais mon café, je commence ma journée. J'ai une petite pause, ce qui est très rare. Je m'en vais faire une petite investigation, je vais voir sur le site, je vais m'informer. Puis, information intéressante. C'est effectivement. Premier élément. Je vais faire une petite mise en contexte. Il y a une bonne pratique qui est appliquée notamment chez LastPass. Toute mise en production, les développeurs n'ont pas accès à l'environnement de production. C'est mécanisé d'une autre façon. Cependant, des pirates auraient réussi à créer une porte dérobée qui a été mise en production, donc qui a ouvert une brèche. Une bonne vieille backdoor. Je fais référence ici à War Games avec Matthew Broderick, une bonne vieille backdoor malheureusement qui a été introduite via une mise en production tout simplement, et des pirates auraient pu à ce moment-là ont pénétré dans l'environnement de production. Premier élément, LastPass nous confirme que c'est probablement de l'information peut-être confidentielle, mais c'est de l'information sur des clients, pas la base de données de mots de passe. Petit fait intéressant. Il y a une base de données de mots de passe qui est chiffrée chez LastPass avec une technologie de zero knowledge. On reviendra par après. Par contre, les clés pour pouvoir y accéder, ils sont pas dans la même infrastructure. Ils sont sur nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Les clés, donc, le hash pourrait être exploité sur la base de données, mais ils auraient la moitié de l'information. Puis deux, il faudrait que ça soit quelqu'un qui soit, comment je dis ça, qui soit pas fainéant, hein? Un pirate, habituellement, ça cherche la facilité, sinon ça passe à un sujet suivant ou un client suivant. Ça prendrait des lunes et des lunes et des lunes, un effort considérable. Alors, je dis pas qu'un pirate c'est fainéant, mais c'est du moment qu'il y a un effort trop soutenu à mettre dans le processus, je pense qu'il va passer un autre appel.
Ouais, ils vont chercher la facilité, là. Puis c'est un peu la base de tout le principe des malveillants, là. C'est justement, ils vont s'attaquer à toutes les cibles faciles parce que eux autres ont un, c'est une business, fait qu'il y a un coût de... Tu sais, ils calculent le coût rendement, fait que si le rendement n'est pas assez élevé par rapport au temps ou énergie qu'ils vont faire, ben ils vont passer au suivant. Fait que c'est sûr que c'est un peu la blague qui est dit, tu sais, genre, quand tu t'en vas dans la forêt, arrange-toi d'avoir des souliers qui courent plus vite que ton ami, parce que si un ours, ben ça va être pas toi qui va se faire manger, ça va être ton ami. C'est un peu dans cette perspective-là, qui est c'est un peu glauque là, quand tu la comptes comme ça, mais bref, de la voir de cette façon-là, où justement, on est dans un contexte où ils vont s'attaquer aux plus faibles en partant, parce que c'est plus facile d'aller dans cette perspective-là pour le rendement sur investissement. Fait que déjà là, si y a les mesures sont en place, puis là, tu mentionnais justement que la clé est sur... dans le fond, moi, je possède ma clé de ma voûte. Tu parles de zéro knowledge, on va en parler un peu plus loin. Mais le fait de ce moment-là, c'est que c'est ma clé qui déverrouille ma voûte. Ni l'espace, ni leur système... Personne ne peut accéder à cette information.
Non, puis je trouve ça intéressant dans l'article, c'est que tu as une vraie déclaration justement du fournisseur qui dit « Hey, moi je fournis un coffre, les clients ont la clé, moi je ne l'ai pas. Puis j'ai pas de méthode pour bypasser la clé de mes clients. » C'est pas de la technologie qui est nouvelle, ni un principe qui est nouveau, mais c'est le principe auquel moi je m'attends un handshake où je vais confier de l'information, une information qui donne accès à mes informations à un fournisseur. Moi, je pense que c'est un bon principe, une bonne pratique. Présentement, j'ai pas reçu d'autres communications parce qu'il y a deux scénarios. L'ASPACE est en train de faire l'investigation pour voir si les malveillants ont laissé des traces de consultation, de copies, etc., pour voir à peu près dans quelle zone de l'infrastructure, des bases de données, de l'information, à quoi ils ont pu accéder. Fait que deux scénarios, soit ils ont terminé, puis j'ai pas de son, pas d'image, parce que mon information n'a pas été compromise, ou ils n'ont pas terminé, puis éventuellement, on va me dire qu'ils ont peut-être mon adresse, mon code postal, une information X qui a permis justement de m'ouvrir un compte électronique, justement, chez ce fournisseur-là. Mais encore là, j'aime à penser que les éléments que je tiens à garder confidentiels le sont. M'envoyez-moi mon adresse, mon numéro de téléphone, ça m'inquiète peu ou à peu près pas. C'est tout simplement qu'à un moment donné, avec mon code postal, je sais qu'il va rien se passer, mais avec mon numéro de téléphone, peut-être qu'à un moment donné, je vais être pris dans une campagne de phishing, de ci puis de ça qui finira plus. Mais encore là, c'est mon domaine. Moi, s'il n'y a pas mort d'homme, puis j'ai reçu un texto, puis je te connais pas, ça va au vidange habituellement. Puis c'est un petit peu les automatismes que j'enseigne à mes enfants. C'est « Hey, tu connais pas, tu flushes ça. S'il y a mort d'homme au bout, ben il y a un humain qui va t'appeler puis qui va t'expliquer la situation. » Sinon, tu flushes, là, puis ça finit là. Quand c'est important, on flush.
Ouais, puis de toute façon, ça, ça revient à ce qu'on nos parents nous disaient, ne pas parler à un étranger. T'sais, on revient toujours à ces vieilles notions-là fondamentales, puis on met ça, on a oublié maintenant qu'on fait pas ça, mais en même temps, tu sais, c'est... t'sais, bon, bref.
C'est parce que j'ai une image. Hein? J'ai l'image. Écoute, j'ai l'image. J'ai un de mes amis qui est décédé malheureusement il y a longtemps. Il faisait des imitations épouvantables. Il met une poignée de change dans ses poches, puis il imitait justement le kidnappeur d'enfants dans son char, puis il brasse les poches. Hey, petit gars, fais ça, nanana. Puis je vois encore l'image.
Ah, c'est là que ça devient, c'est ton imitation.
Mais c'est ça, Nicolas, c'est la même affaire. C'est que là, au lieu que ce soit un escroc, au volant d'un, je sais pas, un Bobcat ou un Bel Air 1984 en passant, un Chevrolet Bel Air 1984, si je pouvais mettre la main sur un, j'en achèterais un. C'est un tank, ces voitures-là. Ça passe au travers d'une maison. Puis ça a pratiquement pas de scratch de peinture. Ceux qui connaissent ça, probablement qu'ils doivent être en train de rire, j'ose espérer. Mais c'est le même scénario. Le texto étrange malveillant, c'est le bonhomme mal léché dans son Bel Air 84 qui vous accoste sur le bord du chemin. C'est la même maudite affaire. Ah, j'aime bien l'image.
Oui, mais tu sais, c'est encore d'actualité parce que nos parents nous enseignaient ça justement, de faire attention. T'sais, nos cheveux gris relatent un peu l'âge qu'on est rendu, mais nos parents nous enseignaient ce genre de choses-là. Parce que quelqu'un n'enseigne pratiquement plus à nos enfants maintenant parce que la réalité a changé, parce qu'on les couvre beaucoup trop, fait qu'on les sont beaucoup moins dans des occasions ou sont moins laissés sans surveillance, disons. Ouais. Donc on leur explique plus qu'il faut pas parler d'étrangers, faut pas leur explique plus qu'il faut faire attention puis pas suivre des personnes qu'on connaît pas, des choses comme ça. Mais c'est les mêmes règles en cyber. On fait attention aux gens. On a des symboles ou des signes qui nous, justement, nous relatent. Puis dans un contexte comme celui-là, où il y a eu vol de la base de données, probablement, ça, tu disais, ton adresse courriel. Ben, de toute façon, ton adresse courriel est déjà dans les banques de Dark Web. Là, fait que ça, alors, comme les miennes sont déjà largement là. Il y a juste certaines de mes adresses qui sont encore pas connues parce que je les ai pas vraiment beaucoup utilisé encore, mais je m'amuse, j'en ai beaucoup là, que je popule, là, fait que je m'amuse à voir combien de temps ça va prendre avant de commencer à recevoir du spam ces adresses-là, mais bref, on va voir combien de temps avant que les compagnies soient revendent. Mais déjà, ils revendent nos informations, oui. fait que ça, c'est absolument pas grave. La seule chose dans le cas de LastPass que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue analyse de sécurité, il y a du spam qui est en circulation, qui justement, puis qui a l'air d'être bien fait. Là, la capture d'écran que j'ai vue était super bien faite, qui demandait aux gens de prendre le chemin pour les aider à déverrouiller leurs choses ou que leur voûte allait expirer puis allait tout perdre. Un peu encore sur la base de l'urgence, vous allez tout perdre, ça, puis c'est un peu ça, mais avec le fait qu'il y a eu le hack en même temps, fait qu'on a mélangé les deux, puis ben quiconque qui est pas vigilant, ben va se faire avoir. Il va divulguer son mot de passe que c'est seulement lui qui connaît. Là.
C'est un bon point que tu amènes. C'est un bon point. Brèche de sécurité, la phase finance publique, fait que les pirates qui ont dérobé de la donnée, le cochéa, il y a un autre gang de pirates, probablement, qui dit « Hey, ils viennent de divulguer, on part une campagne de phishing. » Et il dit, parmi la gang, c'est le retour d'impôt. Moi, écoutez, j'ai reçu 7 retours d'impôt. Selon les textos que j'ai reçus cette année, j'ai mérité 7 retours d'impôt.
Tu as reçu tes 6 chèques de 400 $ de la CAQ aussi?
Non,
ça circule beaucoup ces temps-ci.
Non, mais je me souviens, mi-avril, une fois par semaine, deux fois par semaine, j'avais une suggestion par texto. J'ai un retour d'impôt, mais ils attendent justement un acknowledge de ma part, un handshake, un lien, un clic, un ci, puis un ça. Il y a une période X. Les pirates, là, c'est des gens qui sont avenants, c'est des gens qui ont de la conversation, c'est des gens qui... C'est pas surprenant. Le Black Friday, il y a 2 semaines. La veille et la journée même. Moi, je le sais que... Moi, j'ai un téléphone de bureau. Je le sais qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Parce que la veille et la journée du Black Friday, la quantité de cochonneries que j'ai reçues, mais j'ai reçu un appel d'un être humain, un vrai. Mon kit de photos que j'ai fait développer aux gens coutus à Saint-Nicolas était prêt. Ah! J'ai dit, ben, si vous avez le nom d'un homme ou d'une dame qui ne s'appelle pas mon nom à moi, j'ai dit, c'est que là, j'ai ce numéro-là. Je dis, la personne va éventuellement s'apercevoir qu'elle a laissé des photos à développer, mais si vous l'appelez, vous allez faire quelqu'un de très heureux. Fait que s'il y a vraiment des photos développées, ben, j'ai le téléphone de quelqu'un d'autre, puis je me rends compte que probablement que l'ancien détenteur s'est inscrit à toutes les infolettres qui existent dans l'univers. Des magasins que je connais pas en Chine puis en Inde qui m'écrivaient pour m'assurer qu'il y avait la bonne adresse pour livrer ma commande puis le ci puis toute la journée. À tous les 10 minutes, j'en avais 1 à 2 qui rentraient. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis le téléphone à côté, je suis en télétravail, j'ai enlevé le son, j'ai laissé ça traîner, j'avais pas d'appel, mes enfants étaient pas avec moi cette semaine-là. Terminé. Puis c'est épouvantable. L'écran après, quand je regardais ça, là, hey, Seigneur Saint-Ciel. Mais bon.
Ouais, ben. Oui, mais ça, c'est ça. Déjà là, il y a une mauvaise pratique. Le précédent propriétaire de ce numéro-là n'aurait jamais dû utiliser son numéro de bureau. pour faire des affaires personnelles. Ça, c'est mal. Ça, c'est très mal, justement, pour ce genre de raisons-là. Mais moi, je suis plus que ça. Moi, mon numéro, qui est largement connu maintenant, si tu n'es pas dans mon bottin, tu tombes directement dans le répondeur parce que tu n'as pas d'affaires. On n'a pas à se faire à se parler.
J'avais un petit événement que je devais gérer. J'ai enlevé cette fonction-là. Je ne l'ai pas remis encore. Ça me fait penser. Fait que c'est pour ça que ça s'est mis à rentrer à fond la caisse. Là.
Mais... Sinon, quand on fait des activités comme le précédent propriétaire de ce numéro-là, tu utilises normalement des numéros de téléphone jetables. Là. J'en ai plusieurs comme ça. J'en ai deux ou trois, je pense, des numéros de téléphone jetables. Puis justement, dans des cas où justement tu veux tester un système, tu n'es pas tout à fait sûr que c'est légitime de l'autre côté, bien, tu utilises ce numéro de téléphone-là à la place. Toujours mieux. Puis justement, il y a un cas où j'avais fait des tests, puis j'ai été très content d'avoir fait ça parce qu'ils ont appelé à toutes les heures pendant deux semaines.
Nice.
Non-stop. Fait que si ça avait été son numéro principal, ça aurait été un peu plus l'asile. J'ai tassé le problème sur un numéro jetable. Mais ils se sont pas tannés pendant deux semaines. Là. Ça appelait là, toutes les heures, puis ils laissaient 20 secondes de message à chaque fois. Mais bref.
J'ai vu Nicolas et son visage triste.
Non, je n'étais pas triste parce que c'était un numéro jetable, et je suis pas content de mon choix. Mais bref, ouais, revenons à l'aspect, c'est quand même l'objectif de notre conversation. Justement, ben, si vous avez des sollicitations non ou louches, tu sais, que vous mettez de la pression, qu'il y a des deadlines, des choses comme ça, vérifiez que c'est légitime. Assurez-vous, faites un spot check. Ce serait très étonnant qu'une compagnie comme l'Aspace vienne fermer le compte de façon intempestive sans vous laisser la chance de ou sans vous donner l'occasion de vous expliquer ou de choses comme ça.
Même si
c'est pas des pratiques commerciales qui sont pour des compagnies qui sont reconnues. Là.
Puis même si vous êtes un client gratuit, vous n'êtes pas discriminé là, de ce côté-là. Là. S'ils offrent une version gratuite, ben c'est dans l'offre de service. T'sais, ils viendraient pas vous discriminer en coupant votre compte tout simplement parce que vous êtes un client gratuit. Là. Moi, j'utilise la version gratuite, c'est à mes propres fins, puis c'est simple d'utilisation, c'est simple d'intégration avec le téléphone, les applications, puis Safari, puis peu importe. Là. Mais bon, bref, tout ça pour dire que présentement, ben, l'ASPAS poursuit soit son investigation ou ben non, ils ont terminé, puis dans mon cas, mes informations n'étaient pas suffisamment intéressantes. J'espère, par contre, avoir une forme de... Ce serait le fun de la compagnie n'est pas obligée, mais... une forme de post-mortem ou de confirmation. De confirmation qui dit que, hey, dear value customer, hein, c'est comme ça qu'ils commencent leur courriel, on vous confirme que vos informations, il n'y a aucune de vos informations qui a été consultée ou dérobée ou peu importe, ou de façon générique, on confirme que l'information était de nature soit publique ou si confidentielle, mais sans impact sur un individu, ses ressources, etc. etc. Fait intéressant. Les clés sont sur nos appareils. Eux autres, ils ont une base de données chiffrée. Puis quand on vient interroger notre voûte, ben c'est un modèle Zero Knowledge Proof qui appelle, que j'ai trouvé fort intéressant et que j'ai traduit. Fait que je vais vous faire saigner les oreilles avec la traduction française. C'est une négociation. C'est une négociation entre mon application et la voûte chez LastPass où je prétends que je dis la vérité, puis LastPass dit oui. Je consens à ce que tu dis la vérité sans que tu me donnes de preuves. Ce qu'ils appellent la démonstration de preuve à connaissance nulle. Arc, c'est let. Mais je trouve ça intéressant comme concept. C'est que moi, j'active le Face ID, mais j'ai ce qu'on appelle le Master Password. Mais quand j'arrive dans leur infrastructure, soit avec le Face ID, en fait, qui est l'équivalent d'écrire mon Master Password, j'ai pas de deuxième facteur ou quoi que ce soit. Non, il y a une petite technologie qui dit, hey, on croit que t'es Vincent. On te laisse rentrer dans ta voûte de mots de passe. Fait quelque chose, c'est une technologie qui est extrêmement intéressante.
J'ai bien aimé ton effort de traduction. On va retrouver cette technologie-là sous le nom du end-to-end encryption ou ce genre de notions-là, puis on le revoit. C'est sûr que là, si on s'adresse au grand public, c'est des notions qui sont complètement abstraites. Puis je pense que ton explication, justement, en ce sens-là, l'explique très bien. Le fait que, dans l'absolu, tu disais il y a une voûte, mais les autres, c'est comme, dans le fond, c'est comme un coffret de banque.
Ouais.
On peut voir, l'autre analogie, c'est un coffret de banque, et ça prend toujours deux clés pour déverrouiller ton casier. Ça prend la clé de la banque et ta clé. La banque ne peut pas l'ouvrir tout seul, et tu ne peux pas l'ouvrir seul. Fait qu'il y a comme une chose de double qui s'assure qu'à ce moment-là, ils ne sont pas capables. Là, c'est sûr que d'un point de vue, là, tu peux avoir quelqu'un d'autre, mais à la limite, c'est comme peut-être son casier de postal qui, dans ce cas-ci, on est le seul à avoir la clé de notre casier à ce moment-là ou dans ce type de d'approche-là, on est le seul à posséder la clé pour nous donner accès ou la clé de notre maison ou des choses comme ça. À ce moment-là, qui sont des façons où c'est pas répandu, c'est pas donné à tout le monde, donc on est propriétaire, c'est fait par des processus cryptographiques très sophistiqués, très robustes, qui sont mis à l'épreuve. Fait que c'est pour ça qu'on peut s'assurer que, moi, dans ce type de technologie-là, j'utilise Proton beaucoup au niveau de mes courriels, puisque c'est un système, justement, qui est basé sur ce principe-là de zero knowledge aussi. Le fait que Proton n'a pas accès à aucun de mes courriels. Puis j'aime beaucoup cette idée-là. Parce que c'est aligné avec des choses, puis c'est aligné aussi parce que tu sais, je professe beaucoup de choses, fait qu'il faut que je sois cohérent. Là. Mais tu sais, en même temps, ça veut pas dire que tu sais, je démonise les autres, mais dans ce contexte-là, j'aime beaucoup cette approche-là, puis j'ai beaucoup testé avec la technologie. Cependant, dans le zéro knowledge, le problème qu'il y a, c'est que si vous perdez votre mot de passe, vous perdez pour toujours l'information qui est avec. Parce qu'il y a personne d'autre que la clé. Et c'est vrai. Il n'y a personne d'autre que la clé. Et c'est vrai, vrai. Fait que vous pouvez tempêter, vous fâcher autant que vous voulez. J'ai fait, entre autres, ça, je l'ai avec Proton. Je ne l'ai pas fait avec. Parce que moi, j'utilise un autre de mot de passe qui utilise une autre technologie similaire, la même chose que Zero Knowledge. Dans Proton, c'est que je testais mes affaires, je commençais avec ça. Puis, tout à coup, j'ai perdu mon mot de passe parce que je ne sais pas une raison. Parce que la voûte de mot de passe n'a pas sauvegardé. C'est un mot de passe complexe. Fait que là, je me suis trouvé avec. Fuck, j'ai un problème. Fait que c'est dans les débuts de mon setup, fait que c'est pas si pire. J'avais pas beaucoup de courriels qui étaient encore dedans. Mais quand tu fais un reset de mot de passe sur une boîte Proton, tu perds tes courriels qui sont là parce que les courriels qui sont là sont chiffrés avec le mot de passe. C'est exactement comme dans LastPass, c'est le même principe. Ils sont chiffrés avec le mot de passe précédent. Le nouveau ne connaît pas l'ancien. Fait que les courriels sont chiffrés avec un mot de passe. Accès. Fait que t'as juste des blobs là, et puis j'ai justement un message d'avertissement dans ma boîte. Il faut que je le fasse sauter là parce que j'ai pas l'intention d'aller récupérer ce mot de passe-là ces courriels-là parce que je n'ai pas le mot de passe. Parce que ma voûte a fait un mot de passe de 20 caractères complexe qui n'a pas été sauvegardé. Fait que je pas un genre du temps super ordinateur pour trouver ce mot de passe complexe-là qui est impossible. Là. Fait que.
Tu as lâché brise. Ah, on voit les clochers. Bon, oui, je me souviens, l'employeur chez qui on a travaillé ensemble, où on s'est rencontrés, il y a une certaine technologie, à un moment donné, que tu as essayé de tester sur le réseau quand Microsoft a mis en œuvre justement c'est les principes de chiffrement natifs. Et puis, ouais, je me souviens, on travaillait avec Jérôme à ce moment-là, pour n'oublier pas son nom de famille, puis... Tu nous avais mentionné que tu étais en train de faire un essai, puis il y a eu un petit fourrage à un moment donné, mais ça a été comique entre nous. Puis, tu sais, faut essayer, faut prendre des risques, là. Ah, c'est quoi la petite erreur qu'on a faite? C'est celle-là, OK?
Oui, si ma mémoire est bonne, c'est le FS, j'avais chiffré mon disque, puis j'avais fait une mauvaise manipulation, puis je m'étais exactement retrouvé dans cette situation-là. Ou la clé qui est un certificat dans ce cas-là. Le certificat, je l'ai perdu dans le processus. Pouf, tout a perdu. C'est arrivé avec mon ordinateur personnel, t'as eu la même chose. Ça m'arrive une fois de temps en temps de perdre ces clés-là. Fait que je suis très, très conscient qu'il faut faire très attention et avoir une copie de sauvegarde de sa clé à un endroit sécuritaire. Et si possible, de son information aussi. Parce que si on la perd, puis c'est de l'information qui est sensible, disons, dans ce cas-ci, si vous perdez la clé de votre voûte de mot de passe, puis que vous avez genre 500 mots de passe comme moi j'ai dans ma voûte, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Hey, et des larmes de sang, probablement.
Je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Hein. Faites donc, pour le plaisir, un recensement des sites qui nécessitent une authentification, qui sont importants pour vous. En cas de décès, par exemple, vous allez être surpris de la quantité, justement, d'authentifiants électroniques qui vous accompagnent. Des fois, on s'abrutit, mais ça fait partie de notre quotidien. Ce n'est pas tangible, ça fait partie de notre quotidien. On touche à rien, on peint sur des pitons. Un système check notre face, un système demande un mot de passe. On fait ça de façon j'ai pas envie de dire robotisé, mais c'est très mécanique. C'est rendu, on l'a mécanisé dans nos routines. Oui. Hein? On le voit plus. C'est plus tangible pour nous autres.
Absolument. Puis puis les maudits mots de passe, ben un, il faut les avoir différents. C'est pour ça qu'un nouveau mot de passe est malheureusement inévitable de nos jours parce que ma voûte a vraiment 500. Là, je faisais, c'est pas des farces. Là, ma voûte a 500 mots de passe différents pour différents services que j'utilise. Certains, la plupart sur la voiture, on va dire à peu près le 2/3 sur des sites web. L'intégration avec le navigateur, le plugin de fait que tout maintenant est beaucoup plus simple pour moi. Je m'authentifie dans ma voûte. Une fois que c'est fait, ben là, je peux m'authentifier sur tous les sites que je me promène de façon en deux clics. Au lieu d'avoir à copier-coller des choses comme ça. Fait que c'est vraiment facilitant dans nos vies. Puis tu sais, ça, j'incite beaucoup les gens à faire ça. Il y a des downsides aussi d'avoir une voûte. C'est pas parfait comme mesure de sécurité. Mais entre ça et avoir le même mot de passe partout, ou d'avoir un petit calepin qui traîne sur mon bureau avec les mots de passe manuellement inscrits, puis me faire chier et taper mon mot de passe de 24 caractères de long et complexe, bien, celle-là, c'est un moindre mal. Mais il faut toujours aussi se rappeler que le deuxième facteur est essentiel, l'intégration, puis tout ça, toutes ces mécaniques-là en viennent à faire quelque chose de mieux. Mais bref, la voûte, pour revenir à l'espace, effectivement, les voûtes sont bien protégées. Cependant, la seule chose où on pourrait dire qu'ils ne sont peut-être pas bien protégés, c'est que si votre mot de passe pour accéder à votre voûte est faible, là, vous avez un problème. Mais là, à savoir, est-ce qu'ils savent c'est quoi votre mot de passe? Est-ce qu'on les toutes les testés, tout ça? Les communications ne parlent pas de tout le volet de détection des menaces qui sont inclus avec LastPass. Où ils ont-tu des équipes de sécurité en place pour détecter ça, pour gérer les attaques qui se font face à leur système et toutes ces affaires-là? Ah. L'histoire ne le dit pas.
Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont un petit peu, ils ont introduit cette année, parce que moi, j'ai pas fait l'exercice, mais un peu comme les entités chez qui on travaille ou chez qui tu es consultant, ils ont un tableau de bord de sécurité qu'ils ont décidé de créer, puis ils font des petites campagnes amusantes sous forme de jeu une fois de temps en temps avec nous autres, sans obligation de notre part, puis ils nous disent « Hey, selon nous, et notre analyse, sans avoir vu l'information, mais en ayant vu des caractéristiques de l'information, 100 mètres à 23% sécuritaire, on t'invite à faire un petit exercice ici, en passant justement par le master password. Premier élément, c'est « Hey, es-tu noté à quelque part? Mettons que tu perds quelque chose. » Puis ton mot de passe, tu as décidé de prendre un utilitaire qui fait des caractères bizarres à pu finir, puis que tu l'as pas noté, c'est l'autre danger. Hein? Ah, j'ai un mot de passe méga robuste, 23 caractères, écoute, j'ai des accents circonflexes, des trémas, des ça, j'ai un signe hébreu dedans, puis du sumérien, puis c'est parce que tu le perds, là, puis tu l'as pas noté, come on, là, tu sais.
C'est un peu, t'es un peu dans le pétrin, puis je me suis ramassé des situations comme celle-là. Mon système de gestion, ma voûte de mot de passe, elle a une notification de deuxième facteur. Fait que, advenant même dans un contexte où ce fournisseur-là devenait à vivre le même problème que LastPass, ma voûte est doublement sécurisée. Fait que je suis capable, tu sais, il serait bien. Un, il faudrait connaître ce mot de passe très complexe qui est associé, déjà de un. Qui est le seul mot de passe complexe que j'ai. Puis c'est pas un mot de passe complexe au sens où je me suis une petite formule magique, puis c'est ça, mon mot de passe, il est vraiment aléatoire. Celui-là. Et c'est le seul que je mémorise, fait que ça, c'est la beauté de la chose. Et il y a un second facteur qui est activé, qui fait que à ce moment-là, il faut le mot de passe, et ensuite, il vient vérifier avec mon deuxième facteur. Fait que si quelqu'un voudrait essayer de me casser ma voûte, Bonne chance. Faut qu'il y ait les deux réunis pour réussir à déverrouiller. Puis techniquement, si on veut rentrer dans l'explication qui sous-tend, c'est que pour que le système ouvre, c'est que le mot de passe ouvre une clé. Et cette clé de chiffrement-là devient accessible et là permet d'ouvrir la voûte. Dans le contexte, si les deux conditions ne sont pas réunies, mais la clé de chiffrement n'est pas accessible, et elle, qui elle-même est chiffrée. Et ensuite, il n'est pas capable de remonter jusque dans la chose. Mais bref, c'est de l'explication un peu plus technique du fonctionnement. Mais activer le deuxième facteur, si vous pouvez, sur votre voûte de mot de passe, activer, c'est.
Puis, ce que je trouve comme fait intéressant au niveau du zero challenge, là. C'est comme ça,
Zero
knowledge proof. C'est pas de dire je suis cette personne-là et je te donne pas de preuve. Puis le système dit oh, OK. Non, non. C'est une caricature ici, là. En arrière-plan, il y a deux systèmes. Il y a moi, il y a le mien, puis il y a le client, ma voûte, puis ils vont se lancer des défis. C'est des défis que les systèmes se lancent entre eux. Puis il faut que les défis soient réussis avec succès. Nous, on le voit, j'aime bien l'explication que je vois ici, se lancer des défis, mais c'est des défis où seuls les deux sans qu'on en ait connaissance de ce qui se renvoie comme information, ces systèmes-là, si les défis sont remportés avec succès, c'est à ce moment-là, la voûte s'ouvre. Ça se passe en une fraction de milliseconde. Mais en arrière-plan, écoutez, le zero knowledge, si vous lisez juste le premier paragraphe, vous allez vous dire, hey, wow, me semble qu'il y a de dire que je prétends être telle personne puis qu'un système dise oui, t'es cette personne-là. Non, non. Il y a une activité sous-marine, anti-système, qui est des Olympiques, hein, disons ça comme ça. Et puis, il y a les défis avec les résultats attendus, puis les systèmes se lancent des défis en quelques fractions de secondes, et quand c'est réussi avec succès, ben, votre voûte est ouverte. Donc, il y a une portion d'information qui permet d'ouvrir ma voûte que non, je ne connais pas, que l'espace ne connaît pas, mais qui a été généré entre l'application qui est sur mon ou mes appareils et l'engin, en fait, qui fait ouvrir la voûte.
Oui, c'est de très beaux systèmes, ces choses-là. C'est toute la cryptographie qui est en dessous de ça pour mettre ça en œuvre, puis qu'entre autres que nous, humains, on n'ait pas besoin de rien faire dedans. C'est merveilleux parce qu'on obtient le bénéfice de la sécurité sans la complexité qui est associée. Sauf les mots de passe, on s'entend. Ouais. Là, dans ce cas-ci, là, on n'est pas encore rendu où on est capable d'avoir une biométrie parfaite. Puis dans tous les cas, on fait juste exister. Puis on déverrouille notre voûte là, un peu à la Star Trek où tu fais juste te nommer puis donner ton espèce de mot. Tu dis à haute voix devant tout le monde ton mot de passe secret pour activer les choses. Mais bref, passons à ce côté absolu. Mais on va supposer qu'il y a un volet biométrique qui est associé qui permet de n'importe quoi de le faire. Mais bref, tout ça, justement, toute cette mécanique-là en dessous est très, très intéressante et très puissante. Puis justement, quand vous devez magasiner des produits comme ceux-là, surtout ceux les plus essentiels comme une voûte de mot de passe, c'est des caractéristiques qui sont importantes à regarder et à s'assurer que c'est bien mis en place. Ces choses-là, justement, pour protéger vos secrets les plus, dans ce cas-ci, les plus chers, parce que c'est quand même vos mots de passe. On est capable de stocker nos numéros d'assurance sociale, on est capable de stocker nos numéros de carte de crédit, on est capable de stocker à peu près toute l'information qui est très sensible pour nous. Fait que si vous avez un système qui est moins robuste, ben on est moins bien en sécurité dans ce cas-là. Fait que ça, amenez ça, puis je vais voir, puis je vais rebondir sur le point que tu disais plus tôt. Là, ils ont jusqu'à présent très bien communiqué. Pas beaucoup, mais quand même, ils ont fait une bonne amorce. Ça fait quelques jours qu'ils n'ont pas communiqué. Ça serait peut-être le temps qu'ils redonnent un peu de signe de vie. Justement, de donner l'état des choses, l'état de la situation, sont rendus où dans leur investigation, qu'est-ce qu'on a découvert. Puis justement, comme tu mentionnais, le fameux rapport d'incident qui va aller après, ou minimalement, ce qu'ils peuvent divulguer pour que ça serve à tout le monde. C'est un peu ça l'objectif.
Ben, moi, ce que je trouve dangereux, là, quand une entité, justement, fait une divulgation comme ça, c'est l'attente des gens sur la suite, justement, des nouvelles. Vous êtes rendu où? Ça, si t'as pas, si on, sinon, on n'en fait pas d'annonce. On ferme notre boîte, on dit rien, on gère ça à l'interne, puis une fois que c'est réglé, on fait le post-mortem pour divulguer. C'est pas la meilleure méthode, mais c'est C'est ça qui est plate, c'est que...
Pas faux, là. On a quelques exemples de choses comme ça, genre comme Sobeys, qui, en termes de... exemple à ne pas suivre, ça, c'est un exemple à ne pas suivre, où ils ont zéro communiqué en amont, aucune communication à personne, très peu d'informations. Vaut mieux au moins faire comme LastPass, puis au moins faire un premier état public comme ça. Surtout, je pense que si je me trompe pas, ils sont peut-être dans un des États américains qui a de l'édification obligatoire, mais ça serait à vérifier si tel est le cas.
N'importe quel avocat qui t'accompagne, ils ont dû dire, si vous faites une première communication, « Hey, come on! » Vous devriez faire une communication périodique, puis se doter d'une mécanique. Est-ce qu'on le fait 2 jours? Est-ce qu'on le fait 3 jours? Est-ce qu'on le fait tous les vendredis? Jusqu'au terme de la résolution finale et totale. Mais je suis convaincu qu'il y a des avocats qui ont dit si vous ouvrez la trappe, ben il y a des attentes là, que vous venez de créer. Mais t'as raison, Nick. Moi, quand je t'ai reçu la semaine passée, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je m'attendrais à justement une remarque. Je suis allé voir sur le. Ben, j'ai pas été en mesure d'aller voir sur leur blog tantôt. Je t'expliquerai pas pourquoi. Mais j'ai pas été en mesure d'aller voir sur le blog. Mais ils ont créé un blog justement où ils mettent de l'information à jour. Je travaille avec ma tablette. C'est juste avec l'ordinateur de bureau. C'est plus restreint.
Oui, ben c'est un autre aussi rappel très important que l'ordinateur de bureau ne doit pas servir à ce genre de choses plus personnelles, qu'il faut vraiment séparer les deux mondes. Certains employeurs sont plus stiffs sur justement les règles qui sont mises en place. Mais même si votre employeur n'est pas stiff, c'est important de faire cette distinction-là parce que si on mélange les deux, ça crée des problèmes assez importants.
C'est qu'on utilise un compétiteur avec une solution commerciale. Donc, on a du WAF. À l'interne, ils ont décidé que le compétiteur, ben, LastPass étant un compétiteur, ben, aucune adresse IP ou DNS ou peu importe laissait passer de l'information. Fait qu'on a un beau denial of service quand on veut se rendre sur ces sites-là. Puis c'est correct, là. C'est des décisions d'entreprise, ça ne me regarde pas. puis c'est bien correct, là. Mais effectivement, là, ça mérite une communication à fréquence X. Mais encore là, je pense qu'il pourrait le faire, puis je vais te dire pourquoi. Le message, le courriel que j'ai reçu, j'ai trouvé ça bien, c'est un courriel qui était générique, il n'était pas adressé à moi. Il était adressé à n'importe qui aurait eu ce courriel-là. On voit que c'est générique, là. Je m'attendrais à pas une communication, mais ben peut-être une communication, oui, effectivement. Oh, je m'attendrais à ça.
Ben, au moins, tu sais, probablement que la première a été, justement, comme tu mentionnes, imposée par les avocats. Justement, une question de conformité, j'ai l'impression, pour reprendre ce que ça. Parce que, tu sais, à part le fait que j'ai lu en diagonale ce que tu m'as envoyé, comme moi, j'ai poursu, j'ai pas porté très attention à ce qu'il y en est, là. Ça, c'est. c'est étant les choses comme elles sont, puis je ne vais pas vraiment informer sur cette brèche-là, puisqu'il y en a tellement des brèches maintenant que, tu sais, bon, bref. Puis je me comme tu mentionnais, je me fie beaucoup sur leur système Zero Knowledge End-to-End Encryption. Justement, après ça, j'essaie de voir. Mais là, de toute façon, je ne sais pas si c'est marqué dans l'article où j'ai attrapé ça. Je pense qu'ils ont fait affaire avec Mandiant pour justement les accompagner dans le point de vue technique de la crise, la résolution. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est peut-être une partie de ce rapport-là qui va être intéressant d'être obtenu une fois que les analyses vont être sorties, de savoir s'il y a vraiment des choses qui ont été compromises dans les voûtes, si les voûtes ont eu des tentatives d'attaque, s'ils ont été copiés, si tout dépendant de voir les différents éléments avec ça. Là.
C'est des spécialistes sécurité. Là, ils se font accompagner par une firme, ce qui est une très bonne pratique parce que on vient casser le conflit d'intérêts ou les apparences. Et un rapport indépendant, ça a énormément de valeur justement pour une entité dans une situation comme ça. Faut pas oublier un truc. C'est sûr que j'aimerais savoir plus de nouvelles. Peut-être, par contre, que l'investigation avec l'accompagnement de l'entité que tu viens de nommer a décelé peut-être d'autres choses. Donc, c'est peut-être... les avocats ont dit éviter maintenant les prochaines communications pour ne pas inciter à... Puis, est-ce que ça donnerait des munitions aux personnes malveillantes ou est-ce qu'on viendrait donner une fausse impression de mauvaise réputation de l'espace où, tu sais, il y a l'image aussi à conserver et il y a des munitions à ne pas donner aux assaillants s'ils sont encore en action ou s'ils possèdent une information, on va dire stratégique, qui pourrait justement mettre en péril puis avoir préjudice sur nous autres, les clients aussi. Il y a toutes ces questions-là où on se dit à un moment donné, hey, on va lâcher prise.
Oui.
On aimerait savoir des petites nouvelles, mais j'ai eu une première communication. Ils ont divulgué que déjà là, c'est une bonne pratique, puis on verra le post-mortem.
Oui, ben je vais mettre mon chapeau de gestionnaire d'incident, puis pour avoir été dans des contextes où justement c'est très facile de faire des analyses sans connaître la situation, de prétendre qu'on connaît ce qui se passe à l'interne. C'est jamais facile de gérer un incident technique au niveau technique. Là, il y a toujours beaucoup d'énormes complexités, des choses comme ça. Le seul point que je soulève, c'est qu'il y aurait pu, après une semaine, faire un point, dire OK, ben voici, on est rendu là dans la gestion de l'élément, justement pour donner un petit peu, peut-être rassurer aussi, puis s'assurer de voir ça, puis sans qu'il nécessairement rentre dans le contenu technique. Parce que tu sais, je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est très ardu gérer ça. Puis, justement, quand il y a plein de monde qui disent n'importe quoi autour, ben, ça peut créer plus de préjudice. Puis là, tu mentionnes juste un cas. S'ils divulguent trop rapidement, puis ils ont peut-être une piste qu'ils vont chercher pour essayer de mettre la main sur les malveillants. Puis si, justement, ils vont inventer l'information, ben, justement, là, ils vont rater le cas. Ils vont s'enfuir parce qu'ils vont savoir qu'ils ont trouvé la piste.
Ils vont repousser l'envahisseur trop rapidement.
Ben oui, un peu. Là. Puis d'ailleurs, je fais une plug. Google a sorti des vidéos qui expliquent la gestion de crise qu'ils ont faite, dont avec l'opération Aurora, entre autres. Puis une des choses qu'ils expliquaient, c'est qu'à un moment donné, ils ont vu l'attaquant faire, mais ils voulaient pas que l'attaquant sache qu'il l'avait vu. Fait qu'ils l'ont gardé, puis ils l'ont juste comme à la fin, totalement, quand ils étaient vraiment en contrôle, ils ont tout fermé d'un coup pour jamais éviter qu'ils détruisent des preuves, qu'ils fassent des affaires, qu'ils fassent des choses comme ça par la suite. Fait que oui, c'est un travail complexe.
C'est risqué comme manœuvre, hein? Mais eh bien, oui. Écoute, des fois, le risque, ça paye en salle, hein?
Oui, ben c'est déjà dans leur cas, puis là, vous allez voir les vidéos qu'ils ont développées. Je pense qu'il y en a 5-6 dans la série, ils sont super intéressants parce que ça relate vraiment le travail de et ce qu'ils affrontent comme chose en termes de crise. Fait que quand on voit cette situation-là, on est capable de relativer que comme un attaquant qui en est prêt à l'espace, qui a réussi, parce que la façon dont tu le mentionnes, c'est qu'ils ont réussi à se rentrer dans la chaîne d'approvisionnement, donc ils se sont insérés dans le processus sans que personne ne les voit jusqu'au bout. C'est quand même assez sophistiqué comme manœuvre. Donc, c'est pas un petit clin dans son sous-sol là, qui est tout content. Là, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment très connaissant. Et dans des contextes comme ça, c'est des enquêtes beaucoup plus longues et beaucoup plus complexes qui sont en œuvre. Et effectivement, là, oui, ça se pourrait que ça le prenne des semaines, c'est pas des mois avant qu'il en sorte quelque chose de cet exercice-là. Mais l'important, c'est justement qu'ils donnent peut-être des états de situation, on dirait, ben là, regardez, on est encore en recherche, ou des éléments comme ça, juste pour un peu nous garder un peu juste nous rassurer un peu, parce que il y a certains commentateurs d'ailleurs, là, que je pense que j'en ai un, écoutais, c'est ce matin ou hier matin que j'ai écouté sur un podcast, puis lui, il disait, là, abandonner cette compagnie-là, c'est une gang de pas bon, tout ça. Ouais, mais oui, non. Dans le sens, l'absence de communication peut laisser place à cette espèce d'impression-là, se figer. Ça, c'est négatif pour la compagnie. Donc, dans ce cas-ci, ils sont mieux de justement intervenir, juste pas de garder la crise active, mais au moins de garder justement, on est dans l'avance. On a toujours pas trouvé de preuve de si ça va toujours bien. On n'a pas aucun indice de machin. Puis, bon, ça va comme ça, faire juste un petit point de presse comme ça, justement, pour éviter que les opinions négatives viennent cristalliser et nuire éventuellement à la dite compagnie dans ce cas-ci. Puis je vois même dans certains articles qu'ils font même des états avec GoTo puis LogMeIn aussi qui sont visés parce que c'est quand même un conglomérat. Fait qu'il y en a qui font des amalgames jusqu'à ce qu'ils n'auraient pas attaqué GoTo et ils n'auraient pas attaqué LogMeIn en même temps.
Ben,
à ce moment-là, fait que, est-ce qu'on sait? On ne sait pas, la communication n'est pas claire. Fait que c'est justement de, tu sais, s'ils pouvaient justement clarifier ça. Pour éviter que des gens du monde qui n'ont aucune idée c'est quoi ça fonctionne, la gestion d'une crise, puissent dire n'importe quoi, puis de couper l'herbe en dessous du pied des gens comme ça. Puis c'est pas juste toi et moi qui va réussir à calmer ça, là.
Puis ma compréhension, c'est que Logmein a fait l'acquisition de LastPass dernièrement là. Donc encore là, tu sais, c'est quoi le vecteur? C'est quoi le vecteur? Par où c'est passé? Y a-t-il une consolidation d'infrastructure? Et on arrêtons de paniquer first là, parce que la première communication était claire, c'est hey, vos mots de passe sont toujours sécures. C'est tout. Le message est clair. Donc moi, l'offre de service pour laquelle j'utilise LastPass, je peux encore utiliser puis exploiter LastPass. C'est ça qu'il faut que je me dise. Par contre, il y a peut-être d'autres informations. Ça vient juste me dire, bon, peut-être que tu vas recevoir des communications de LastPass qui vont être douteuses, donc qui ne viennent pas de LastPass. Puis c'est aussi un petit peu ce que LastPass dit dans son message, c'est faites donc appliquez donc votre droit à la méfiance. C'est un droit implicite qu'on a dans notre société de droit, le droit à la méfiance. Puis des fois, le droit à la méfiance, c'est juste de se dire, hey, ça ne me tente pas de me faire prendre, je vais prendre des actions pour. Comme j'ai dit en début de chronique tantôt, moi, s'il n'y a pas mort d'homme, là, dans des textos que je reçois, là, je les ai flushés, là, je suis pas inquiet, là. C'est pas vrai que le méchant gouvernementeur va débarquer chez nous avec un bélier puis qu'il va m'arrêter parce que j'ai pas répondu ou cliqué sur le lien. Hey, ça marche pas de même ici. Fait que, dans le doute, moi, je frappe le premier. Puis mon premier coup de batte, c'est pas compliqué, c'est au vidange qui se passe. Fin du dossier.
Effectivement. On a pas mal fait le tour du dossier, justement. Est-ce que tu as d'autres éléments qu'on n'a pas couverts, que tu aurais aimé couvrir? On a pas mal fait le tour.
Non, on a fait le tour pour LastPass. Là, c'était deux, trois petits éléments. Puis, bien entendu, on a bien verbalisé hein, autour de ces éléments-là.
Ouais, on va toujours un peu sur le côté, un peu partout autour en même temps. Fait que c'est une belle occasion justement d'échanger sur ces éléments-là, que c'est toujours très intéressant.
Effectivement.
C'est bon. Good. Sur ce, à plus.
Salut!